Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, depuis le studio des Aliments. J'ai envie, avec le temps qui lui règne depuis la Sainte-Catherine, de vous parler de ce qu'était l'hiver pour nos ancêtres et prédécesseurs, l'hiver au temps jadis. Comment vivait-on l'hiver dans l'Europe ancienne et dans le Quercy d'autrefois? Il y a un proverbe que tout le monde connaît bien dans nos régions, concernant le jour de la Sainte-Luce, « Per Santo-Luce, lui tsur creisun d'une salle d'épius ». Pour la Sainte-Luce, les jours croissent d'un saut de puce. C'est une introduction, si vous voulez, un peu erronée à cette période de l'année qui, dans la langue d'oc, des pays de Gascogne porte le nom de « lou mèche négre », le mois noir. En bon gascon, il faudrait dire « et mèche négre », le mois noir, donc correspondant du reste à un mois du calendrier celtique, le mois de Douman, qui a le même sens de mois noir, le mois sombre. Nous entrons dans la période des quatre semaines de l'Avent, l'Adventus Domini, qui nous mène vers Noël, en occitan Nadal, du latin natalis, natalis dies, le jour de la naissance du Christ et de la renaissance du soleil. Alors dans ces quatre semaines qui viennent, qui sont pour nous le cœur de l'hiver, le cœur sombre de l'hiver, on descend vers les jours les plus courts, qui sont marqués dans notre calendrier encore par ceux qui vont du 18 décembre au 24 décembre. Dans la Rome ancienne, c'était les dies Angeronae, les jours de la déesse Angerona, la déesse des jours courts, des jours étroits, des jours gris, sombres et silencieux. Littéralement, Angerona, c'est l'étroitesse. C'était des jours pendant lesquels il y avait un tabou sur le bruit, il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas parler à voix forte. Dans nos régions, le mois de décembre, c'est le mois qui nous mène insensiblement vers la Noël et qui se traduit par des préparations culinaires, notamment la tuerie du cochon, la sanpurkat, un proverbe bien connu, celui qui n'a pas de cochon le jour de la Saint-Thomas, 21 décembre, qu'il lui donne un coup sur le nez, s'il n'en a pas, qu'il aille le voler, Saint-Thomas lui pardonnera, je vous le dis en français. C'est plus compliqué en Occitan. Donc nous sommes dans une période qui peut passer pour une période de bombance, de grosses tablées, une période de ripaille. L'hiver serait-il assimilé dans l'imaginaire de nos ancêtres à une période de ripaille? Ce n'est pas du tout sûr et certain dans la mesure où cet hiver est aussi la période sombre. Alors est-ce qu'il y aurait une espèce de compensation au manque de lumière et de chaleur, de lumière solaire et de chaleur, par l'abondance de la nourriture? Ça m'amène à me poser la question de savoir comment vivait-on l'hiver autrefois. Alors, les hivers de jadis étaient-ils déjà les nôtres au point de vue climatique? Ça, c'est tout le problème de l'histoire du climat, illustré par Emmanuel Leroy-Ladurie, par Jean-Noël Pitt et par tant d'autres. Est-ce qu'il faut se fier à ce que nous en disent les tableaux, les peintures qui nous en restent, notamment les tableaux de Bruegel, par exemple? Le dénombrement à Bethléem, des hivers de neige et de glace, comme nous le feraient penser les très riches heures du duc de Berry, était-ce plutôt, à l'image du climat général du bassin Aquitaine, des hivers de pluie et de douceur atlantique? Il faut tenir compte des particularités du climat de nos régions méridionales. L'hiver, évidemment, posait un autre problème, celui du mode de vie, chauffage et nourriture. Par les grands feux flambants dans les cheminées, l'hiver était-il une période de renfermement de chacun chez soi, en fonction évidemment des hiérarchies, des inégalités sociales, des revenus, des ressources? Tout le monde ne passait pas l'hiver de la même façon. Qu'étaient les riches et les pauvres face à l'hiver? Est-ce que les splendeurs automnales de la cour des ducs de Bourgogne se retrouvaient dans toute l'Europe ancienne? L'hiver était dur aux pauvres gens, comme dit un proverbe. Et c'est ce qui illustre, ce qui me revient à la mémoire, d'après ce que l'on m'a raconté, sur les hivers de jadis et naguère, à Montcuq en particulier, on pourrait l'étendre à tout le Quercy, cette mémoire en voie d'oubli des modes de vie anciens, qui repose sur des faits réels, des observations, des dictons, des dires locaux. On s'aperçoit que, en pays de Quercy, l'hiver se passait autour de la Tsamineio, qui n'est pas une caminado, la caminado étant le presbytère, la Tsamineio étant ce qu'on appelle également l'âtre, si vous voulez, le cantu. D'où le problème de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que le cantu? Qu'est-ce que c'est que la fugagno? Qu'est-ce que c'est que la zamineio? Un problème d'étymologie. Est-ce que, finalement, en s'intéressant à ce que fut au Moyen-Âge, au temps plus récent, pour l'exemple que je connais bien, celui du vieux bourg de Montcuq, est-ce que étudier ce que furent les moyens de chauffage et d'alimentation dans le Quercy ancien ne serait-il pas faire de l'archéologie sans la peine des fouilles et de l'histoire sans le savoir? Y avait-il une différence entre les bourgs et les campagnes? Et nous allons essayer de voir ce que pouvait être ou de parler de ce qu'était l'hiver au Moyen-Âge, enfin au Moyen-Âge, au temps ancien. Alors, un hiver à la façon des tableaux de Bruegel ou des très riches heures du duc de Berry. Vous avez entendu parler du grand hiver de 1709, dont le chanoine Sol, dans son vieux Quercy, nous a conservé ce que les curés de paroisse en avaient pu écrire. Lorsque le vin gelait dans les cruches et dans les barriques, la chose s'est reproduite, reste plusieurs fois au XIXe siècle. Ma mère me racontait qu'à Cahors, dans la maison de ses ancêtres, à côté de l'église Saint-Ursis, le vin gelait dans la cheminée. Ces vins qui gelaient dans les cruches et dans les barriques, c'est pas forcément un signe de froid particulier, parce qu'il se pourrait bien que ce soit la faiblesse des vins en alcool qui explique le fait qu'ils aient pu geler par grand froid dans les cruches et dans les barriques. C'est pas une mesure du degré de froid. Ces grands hivers ne sont pas exceptionnels. Ça met en exergue, ça met en valeur l'adaptation ou non de nos ancêtres au grand froid de l'hiver en raison des conditions de vie qui étaient les leurs. Nous avons un exemple plus récent de grand froid hivernaux avec les mois de janvier 1985, 1986 et 87. Alors là, ce sont des choses vues, j'en ai été témoin moi-même, lorsque, après un mois de novembre-décembre très doux, un rafraîchissement vers Noël, un refroidissement vers le 1er janvier, la pleine lune se trouvant assez curieusement vers le jour des rois, elle se produisait par un grand froid. Il y avait ce qu'on appelle le Moscou-Paris, n'est-ce pas, une extension vers nos régions des hautes pressions sibériennes polaires qui descendent jusque dans le bassin parisien et qui même affectent nos régions du bassin aquitain. Et on avait là 12 jours, le décours de la lune, 12 jours de neige, de grande neige, épaisse et de grand froid. Ça se produit par ce qu'on appelle en termes de géographie physique et climatique un retour d'est, c'est-à-dire lorsque se creuse sur le bassin occidental de la Méditerranée, notamment sur le golfe de Gênes, des dépressions qui remontent vers les terres, envahissent la Ligurie, puis la plaine du Pô, remontent par les Alpes et redescendent vers nous, poussées par l'anticyclone sibérien, qui est au contact des deux masses d'air, redescendent vers la vallée du Rhône et le massif central. Et à ce moment-là, sur le massif central, on a les grands temps de burle, le blizzard, tout simplement, et sur nos régions, les grosses neiges. C'est à ce moment-là qu'à Carcassonne, par exemple, il était tombé, comme à Montcuq, 25 cm de neige, avec des pannes d'électricité qui ont duré quelquefois 3 semaines. On a eu là 3 années successives de grand froid en janvier. De nos jours, les climatologues l'expliquent très bien, la connaissent très bien. Il est évident que dans les périodes antérieures au XVIIIe siècle, nous n'avons que des témoignages écrits, quelquefois picturaux, de la part des témoins. Et ça nous permet, par les détails qu'ils nous donnent, de rétablir à peu près ce que pouvait être le degré de froid atteint, sachant que les premiers thermomètres n'apparaissent vraiment dans l'utilisation qu'au XVIIIe siècle. Alors à partir des années 1730-1750, nous avons des relevés précis, exacts de température, et même avec le baromètre de pression. Là maintenant, à partir de ce moment-là, à partir de 1750, l'histoire du climat devient facile. Auparavant, il nous faut nous fier aux impressions de nos ancêtres, des contemporains. Alors, parmi ces documents, il y en a plusieurs, il n'en manque pas. Vous avez le journal d'un bourgeois de Paris, à la fin du XIVe, au début du XVe siècle, des années 1380 à 1450. C'est le plus connu. Vous avez également les 10 hérésies, par exemple, c'est plus récent, de Mistral, dans ses « Memoris Racuntes », de Roumanille, dans ses « Poemos Pruensaus ». Nous avons également, qui est beaucoup plus intéressant pour nous, outre des textes, certes, il n'en manque pas, alors là, sur le sujet, vous en trouverez abondamment et à foison, les lettres de Madame de Sévigné, par exemple, qui nous montrent les aléas et les incohérences et les évolutions chaotiques du climat au temps du règne de Louis XIV. Or, on se trouve à ce moment-là, sous Louis XIV, Et depuis environ, disons, le début des guerres de religion, et ça va durer jusqu'au 19e siècle, au début du 19e, dans ce que les climatologues, les historiens du climat, appellent le petit âge glaciaire, qui succède à l'optimum climatique médiéval, c'est-à-dire le moment où le climat a été le plus chaud, le plus ensoleillé, avec des étés longs, des hivers doux. C'est exactement les siècles des Comtes de Toulouse, c'est-à-dire, disons, en gros, du 10e à la fin du 13e siècle. Et pour la période 14e-15e, qui est celle de la grande crise de l'Occident, et qui se traduit par des désordres climatiques, et notamment par des hivers très froids, dont parle le bourgeois de Paris dans son journal, nous avons les fameuses très riches heures du duc de Berry, dont, où figure, mais ça illustre le mois de février, mais on peut le prendre pour l'hiver, une fameuse vignette, une enluminure, que j'ai sous les yeux en reproduction, dans un ouvrage qui est assez curieux puisqu'il traite du bestiaire médiéval, Les animaux familiers de René Cintré aux éditions Ouest France. Et page 13, j'ai la reproduction, vous la retrouverez ailleurs, on la retrouve dans d'autres ouvrages sur l'histoire du climat et du chauffage. Vous avez également pour ça Elisabeth Sirot, Allumer le feu aux éditions Picard. Vous avez également d'un autre auteur, Les délices du feu. C'est une thèse d'histoire qui reprend en couverture cette fameuse vignette des très riches heures du duc de Berry. Je pense que je vais pour cela vous laisser quelques minutes de musique avant de m'attaquer à la description, à l'analyse et aux commentaires de cette enluminure que vous n'aurez malheureusement pas sous les yeux. Alors, toujours François Nardou, dans Les très riches heures du duc de Berry, ouvrage donc l'on date de 1416, pleine guerre de Cent Ans, sous le règne de Charles VI, on est peu après la bataille d'Azincourt, du reste, et il y a figurant les mois de l'hiver une superbe vignette, un petit tableau, qui nous montre un paysage de neige, sous un ciel que l'on croit sombre, mais où on devine des nappes de ciel bleu étoilé. À l'arrière-plan, des collines, un village niché au creux d'un vallon, autour de son église, quelques maisons. Vers ce village, un chemin sur lequel progresse un homme conduisant un âne chargé de fagots de grosses bûches de bois. Le chemin vient d'un bois où travaille un bûcheron qui coupe du bois. Donc, ce bûcheron, vêtu de bleu, maniant l'hache, et semble-t-il maître des lieux, il est maître de la forêt, il a des droits sur cette forêt. S'il est le maître des arbres, il peut ne pas être le maître du sol. A-t-il un droit de jouissance coutumière qui lui permet de ramasser du bois, on appelait ça du mort-bois, c'est-à-dire du bois à couper sur des arbres vifs, différent du bois mort, qui est du bois sec, tombé à terre. On voit qu'il a amassé des fagots, il est habillé de bleu, des jambières rouges, des chaussures noires, il a les cuisses dégagées, le mouvement dégage les cuisses sont nues, et les organes génitaux sont dissimulés par un caleçon. Alors c'est très curieux parce que là, il y a tout un jeu de signes et de correspondances qui va se retrouver un peu ailleurs dans le tableau. Au premier plan, nous avons une cour de ferme, close de faisceaux en plessis, c'est-à-dire, comment dirais-je, de treillis, si vous voulez, de végétaux. En occitan, on appelle ça des pleissos, d'où le nom de lieu dit pleis à Montcuq. Cette cour de ferme circulaire enferme un beau pigeonnier de pierre maçonnée à deux étages avec un tourillon sommital, un gros pigeonnier. Les pigeons sont enfermés dedans. Si on a des pigeons, ça veut dire qu'on récolte assez de grains pour les nourrir. Du reste, au premier plan, on voit qu'on a distribué du grain aux oiseaux sauvages, qui sont des corbeaux, semble-t-il. À côté du pigeonnier, un rucher, donc une bonne récolte de plantes mellifères et une bonne récolte de miel. Le miel, c'est source de sucre. Le pigeon, de protéines. À côté du rucher, une grange étable. À côté, un beau tas de paille et de foin, recouvert de neige, mais qui se conserve très bien au sec pendant l'hiver. Quand la meule de paille est bien montée, la pluie, l'humidité, la neige ne pénètrent pas à l'intérieur. Au centre de la cour, une étable, enfin un abri à moutons, sous lequel est enfermé un beau troupeau de moutons, avec toujours pareil la même clôture en plessis qui les renferme sous cet abri sous toiture. La chaleur des moutons est suffisante pour faire fondre la neige. À côté, une réserve de fagots, une charrette en bois, des tonneaux, on ne sait pas s'ils sont pleins de bière ou de vin, du pigeonnier, un personnage en robe courte, donc c'est un homme, de couleur rouge, amitouflé dans un grand châle blanc-gris, se dirige vers ce qui est l'élément central du tableautin, une maison paysanne. Alors, par artifice, le peintre a supprimé un mur qui nous permet de voir l'intérieur. Alors là, nous avons une très belle description, intéressante, par tout ce qu'elle confirme de ce qu'ont apporté des enquêtes d'ethnographie au XXe siècle, et par des enquêtes sur les moyens de chauffage depuis le XVIIe et XVIIIe. Alors, un intérieur paysan, un toit de chaume, une belle charpenterie et menuiserie. La maison est plutôt à la façon de ce qui se fait encore de nos jours aux États-Unis. C'est une maison en bois, démontable, sur socle isolant du sol, terre battue qui protège de l'humidité. Donc un milieu qui est hors d'eau, au sec, des murs extérieurs qui sont formés de pisés ou de torchis. Mais à l'intérieur, une superbe cheminée de pierre, avec un grand feu flambant. Il fait assez chaud dans la pièce en question pour que des vêtements mis à sécher en hauteur puissent être voir leur humidité s'évaporer. Devant la cheminée, trois personnes. Alors, la première devant est habillée de bleu, comme le bûcheron. Donc, apparemment, si le bûcheron est maître des lieux, puisqu'il peut abattre du bois, c'est qu'il il a des droits sur la terre. S'il abat du bois, il est maître des lieux, c'est apparemment le paysan, c'est le chef de famille. Et la personne qui est devant nos yeux est habillée de bleu comme lui. Elle est coiffée de noir. Elle porte une tunique blanche. Sa robe descend jusqu'aux chevilles. Elle est assise devant le feu. Elle retrousse sa robe pour se chauffer les jambes. Et l'ardeur du feu est telle qu'elle détourne le visage et regarde un chat à ses pieds. Il y a un échange de regards entre le chat et la dame de maison. Et à côté d'elle, deux personnes plus jeunes. Un homme, une jeune femme. L'homme est coiffé de rouge, vêtu de gris, des jambières grises, des chaussures noires. La jeune femme également, si ce n'est qu'elle est coiffée de noir. Alors, chose très curieuse, et le détail ne doit pas être pris dans un sens obscène, mais ça me fait penser à ce que nous disent les missionnaires catholiques des mœurs et des coutumes de l'Irlande pré-chrétienne. Le jeune homme et la jeune femme retroussent leurs vêtements et laissent, pour chauffer et offrir à nos regards, si on peut dire, leurs organes génitaux. Ça peut paraître curieux, mais bon, il y a un jeu de signes avec la représentation du bûcheron. Alors, on peut se poser des questions. La personne qui traverse la cour du pigeonnier vers la demeure du paysan, est-ce que c'est un domestique? Est-ce que c'est le grand-père? Est-ce que c'est le père du bûcheron ou de la dame? Nous n'en savons rien. En tout cas, là, on a le tableau d'une famille assez aisée pour avoir une grosse récolte de grains, un bon troupeau de bétail, au moins de petits bétails, une récolte de vin ou d'orge pour faire de la bière, assez aisée pour se chauffer et... C'est des enquêtes d'ethnographie impulsées par le Muséum national des arts et traditions populaires dans les années 30-40 qui nous le prouvent. Il semblerait, vu ce que nous révèle ce tableau, que dans ces intérieurs paysans, on est dans la France du Nord, avec une belle cheminée de pierre et bien alimentée par du bois venant des terres dont la famille est, disons, en possession. La propriété, c'est autre chose. Il pouvait régner dans ces intérieurs paysans, dans ces salles principales où l'on vivait, où l'on se chauffait, où l'on faisait la cuisine, une température de l'ordre de 20 degrés. Des enquêtes ont prouvé dans les années 1930-1940, dans des intérieurs paysans. Donc, tout nous fait dire qu'ils correspondent à ce qu'étaient les intérieurs paysans de la France d'Ancien Régime. Une cheminée flambant bien, dans des pièces pas trop vastes ni trop hautes de plafond, entretenait une température de 20 degrés, ce qui, pour les paysans français du XXe siècle, était trop. Les gens avaient l'impression d'étouffer. Nos paysans français du XIXe et XXe siècle se satisfaisaient de températures à l'intérieur de 12 à 15 degrés. On le sait à Versailles, par exemple, où Louis XIV ne supportait pas la chaleur. Versailles, c'était le palais des courants d'air. Louis XV avait fait aménager des appartements d'hiver à cause de cela, sinon on se gelait. Alors là, nous avons un tableau qui nous montre ce que pouvait être, si vous voulez, la relation entre une famille paysanne et la ville proche, le bourg proche, que cette famille alimentait en bois, en viande, en lait, en vin, en miel, en grains, assurait donc l'alimentation en pain d'un bourg proche. Et on a tout un tableau, si vous voulez, de la société, et qui est caractérisé dans ce qui est pour nous l'image archétypale, fantasmatique, et je dirais même une représentation imaginaire du Moyen-Âge. Quand on a une certaine sensibilité d'historien, le Moyen-Âge se révèle pendant l'hiver. L'hiver, c'est la saison du Moyen-Âge. On a là, si vous voulez, à travers cette vignette des très richesseurs du duc de Berry, une représentation de ce que furent les conditions de vie dans l'Europe ancienne, mais surtout l'Europe du Nord-Ouest, l'Europe ancienne médiévale du Nord-Ouest. Parce que pouvait-il en être dans nos régions où les conditions de climat ne sont pas les mêmes ? On peut se demander qu'est-ce que pouvait être un Moyen-Âge en pays de Quercy, en pays d'Oc, avec un climat quand même différent de ce qu'il y a dans les régions d'entre la Seine et le Rhin, qui est malheureusement la région la mieux étudiée par les historiens, parce que c'est ça sur laquelle ils ont de nombreux documents concentrés aux archives nationales à Paris. Alors de ce fait, on en vient à ne faire connaître au public ce qu'a été le Moyen-Âge ou les siècles anciens qu'à travers ce que les archives du bassin parisien nous conservent. On est donc là, si vous voulez, dans un problème. Est-ce que dans nos régions, l'hiver n'aurait pas eu une autre connotation, une autre représentation, une autre perception ? On a pour ça différents documents. Alors, si on sait que le temps des Comtes de Toulouse a été un optimum climatique, avec des étés chauds et des hivers doux, les textes des troubadours nous révèlent que, pour nos ancêtres médiévaux, la saison qui était celle de la vie, était celle de la reviviscence de la nature et de la vie de cour et de la vie communautaire dans les villages et dans les bourgs, mais c'était le printemps et la belle saison, c'était le printemps et l'été. L'hiver, c'est la saison, au contraire, je dirais presque ce qu'évoque la canzone de la Flus en Verso. C'est la fameuse chanson dont vous trouverez le texte dans la nouvelle anthologie de la lyrique occitane du Moyen-Âge de Pierre Beck, page 204. Gérard Zucchetto également en a fait part dans un recueil de textes des troubadours, page 52-53. Alors cette fameuse chanson de la Flur en Verso, « Arresplan la Flus en Verso »« Pels trencans rangs et pels tertres, cals flurs, neus, gels et cung lapis, que cots et destreigne trenco » Alors, la traduction, je vous rends celle de Pierre Beck, maître en la matière. « Quand paraît la fleur inverse, c'est le gel, c'est le givre, sur roc rugueux et sur tertre, est-ce fleur, non, gel et givre, qui brûle, torture et tronque. En feuille, en rince, en ronce, etc., etc. Quand le monde ainsi j'inverse, que plaine me semble tertre, je tiens pour fleur, neige et givre, et pour chaud, le froid qui tronque. » Le paysage d'hiver donc, dans nos régions méridionales, lorsqu'il est particulièrement marqué par un hiver rude, est à l'inverse de ce que nous aimons vivre. C'est au fond, pour nous, l'hiver, c'est le titre d'un ouvrage fameux d'Anne Brenon, l'hiver du catharisme, pour parler des 14e et 15e siècles, qui voient l'extinction de l'hérésie. L'hiver, c'est un paysage intérieur, c'est un paysage en esprit. L'hiver, c'est notre saison mentale, c'est celle c'est la période où l'esprit se repose et où nous pouvons nous plonger dans des lectures profondes et des méditations. Au fond, l'hiver, c'est la période de création intellectuelle. Et c'est l'inverse de ce qui apparaît dans les œuvres, par exemple, le journal d'un bourgeois de Paris. C'est aussi l'inverse de ce qui apparaît dans les très riches œuvres du duc de Berry. Ou au contraire, l'hiver, c'est la période du retrait à l'intérieur, mais c'est aussi ce que nous évoque le Compos des Bergiers, par exemple, œuvre de la fin du XVe siècle, ce que nous évoquent les livres de recettes qui nous ont été conservés. Alors, notamment à ce sujet, il y a un recueil de recettes de la cuisine médiévale, ouvrage que je n'ai pas apporté, c'est bien dommage. Il y a toute une série de recettes connues et qui sont des recettes conçues par des cuisiniers de grandes maisons au XIVe, XVe siècle, notamment dans le duché de Bourgogne, mais également dans la région parisienne. Et alors là, c'est dans ces régions de l'Europe du Nord-Ouest, l'hiver, c'est la saison des grandes bombances. Alors c'est ce que nous allons voir, dont je vais essayer de vous parler maintenant, avec une seconde partie, après un intermède musical. L'hiver est-il la saison du chauffage ou de la pénurie? Est-ce que c'est une saison d'approvisionnement en aliments, en combustible, ou au contraire une saison de disette? On va voir ça dans quelques instants. Alors, l'hiver, pour moi, c'est effectivement, outre que c'est la saison du froid, donc du chauffage, c'est aussi pour beaucoup la grande saison des bombances et ripailles. Mais ça posait pour l'Europe ancienne des problèmes d'approvisionnement. Approvisionnement en combustible, en produits agroalimentaires. On est dans une économie qui est en équilibre précaire entre les besoins et les ressources. On est dans une économie où, imaginez bien une chose, la France, au début de la Révolution, fin du règne de Louis XVI, c'est 25-26 millions d'habitants. Ce sera 30 millions à la fin de la Révolution, au début du Premier Empire. C'est le double de la Russie à l'époque. C'est le triple de ce qu'il en était dans le monde germanique. C'est 4 ou 5 fois plus que l'Angleterre. On a un pays très peuplé, mais où l'agriculture doit satisfaire les besoins primordiaux, élémentaires en grains, donc on cultive le plus de terres possible en blé et en céréales, ça réduit d'autant la surface en forêt. Or la forêt, qu'est-ce que c'est? C'est la source d'approvisionnement en bois. La forêt sert également de pacage pendant l'hiver. On a besoin de bestiaux pour l'approvisionnement en viande, mais aussi comme force de travail. Donc il faut des prairies, autant de prairies en plus, autant de blé en moins. D'où le pacage des bétails l'hiver en forêt. On est donc dans une situation, si vous voulez, de conflit entre les besoins, les capacités, les ressources, ce qui met en œuvre les techniques et les technologies que l'on connaît. On est donc dans une situation où, les besoins étant tout juste couverts, on est facilement en état de pénurie, de disette. Et c'est vrai pour le bois comme pour le reste. Alors évidemment, une ville comme Cahors, par exemple, sur un fleuve navigable et flottable, était approvisionnée en bois par les trains de bois flottés descendant des hauts pays du Rouergue et du Gévaudan. C'est une des raisons de l'importance de Paris, qui est au point de jonction de la Seine et de ses principaux affluents, mais descendait des trains de bois flotté depuis le Morvan, depuis les Hauts-Pays de l'Oise. Donc ça explique pourquoi dans la France, dans l'Europe d'Ancien Régime, les villes importantes étaient toujours situées sur des fleuves navigables et flottables. Parce que le fleuve, c'est le chemin qui marche. Ça permet le transport de toutes sortes de pondéreux, notamment des denrées agroalimentaires. En premier lieu, les grains, le blé. D'où l'implantation de moulins et de minoteries à proximité des grandes villes. À Paris, Corbeil. À Cahors, le moulin de Coty, par exemple. On avait donc là, si vous voulez, un problème qui était d'autant plus accentué l'hiver, lorsque les fleuves gelaient. Il arrivait que par grand froid, les fleuves gèlent. Le Lot a été pris par les glaces à Cahors en janvier 85. À Montcuq, la Barguelonne, en janvier 85, 86, 87, était gelée jusqu'au fond de son lit. Donc on comprend pourquoi des problèmes économiques généraux se posaient. Et ça se doublait, évidemment, des problèmes que posait le chauffage des intérieurs. Car si la cheminée apparaît dans nos régions au XIIe siècle, si elle se généralise au XIVe, XVe, au moins dans les demeures nobles et bourgeoises, elle ne devient vraiment commune qu'au XVIIIe et surtout XIXe siècle. À ce moment-là, il n'y a pas de maison sans cheminée, il y a même quelquefois autant de cheminées que de pièces. Jusque-là, il n'y avait guère qu'une pièce dans la maison qui était chauffée, c'était la salle commune. Selon le docteur Caïla, cette salle commune, on l'appelait l'oustal. Et le terme d'oustal, du latin hospitale, qui est l'adjectif formé sur hospitium. Hospitium, l'équivalent, c'est domus, c'est la maison. Et l'oustal, c'est, si vous voulez, l'hôpital, et c'est la pièce principale de la maison. Et selon le docteur Caïla, c'est dans cette pièce principale où se trouvait le foyer, le centre de chauffage, qui a donné son nom à l'ensemble du bâtiment. On est donc, si l'on peut dire, dans un monde où le conflit entre les ressources et les besoins se traduit par une économie et même une parcimonie. Alors là, on sait par tout un tas de récits et de souvenirs à quel point nos ancêtres pouvaient être économes en matière de chauffage, y compris dans les grandes maisons. On a beaucoup de récits sur le sujet qui nous montrent l'étonnement, par exemple, des ressortissants de pays germaniques, des Russes en voyage en France au XVIIIe siècle, qui habitués à voir l'intérieur de leur demeure bien chauffé pendant l'hiver, par les poêles en Allemagne. C'est pas vraiment le poêle actuel, c'est une espèce de bâti en céramique qui diffuse une chaleur continue, assez importante, tout en étant modérée, et tout au long de l'hiver. Je pense par exemple au récit de Denis von Wisin, au récit de Thomas Platter, très surpris, dès qu'il a passé la limite entre les pays germaniques et les pays romans, la crête des Vosges, quittant l'Alsace germanique, où les maisons sont bien chauffées par des poêles de céramique, il entre dans la Lorraine romanophone, et là, on ne se chauffe plus qu'avec des cheminées. C'est la même chose en Franche-Comté. La Franche-Comté se chauffe avec des cheminées, la principauté de Montbéliard, actuel territoire de Belfort, se chauffe avec des poêles à la germanique ou à la russe. Alors ces poêles à la germanique et à la russe consomment beaucoup de bois tout au long de l'hiver, mais ils assurent un très bon chauffage. Et ces voyageurs sont très étonnés qu'en France, on se contente de cheminées qui chauffent mal, à moins d'être placées dans des pièces de petite dimension et basses de plafond, où alors là, elles entretiennent une très bonne chaleur, à l'image de ce qu'il en est dans les cottages anglais. Alors, ils en concluent que les Français ont une résistance à la chaleur, au froid, je veux dire, que n'ont pas les Germaniques et les Russes. Comme s'il y avait des, on dirait de nos jours en termes pseudo-savants, les Français, les descendants des Gaulois, mais aussi les Britanniques, qui eux-mêmes sont des descendants de Celtes en partie, mais aussi les Italiens comme les Espagnols, auraient dans leur gène une espèce de résistance naturelle au froid, alors que leurs hivers sont beaucoup moins rudes que dans les pays germaniques et en Russie. En fait, la véritable raison, elle est simple, c'est que la France du XVIIIe siècle est une France où les forêts sont à la limite de la surexploitation, avec la Révolution et, disons dans les faits, l'abrogation du code forestier de Colbert, avec l'abolition des règles que l'on appelle les droits seigneuriaux, mais qui en fait sont des règles ou des privilèges, qui en fait sont des statuts qui avaient, entre autres, pour conséquence d'assurer une protection des ressources forestières et une bonne gestion raisonnée, équilibrée des ressources de la nature, éviter de piller la nature. On prélevait dans la nature ce qui était nécessaire à assurer un minimum de chauffage et un minimum en matière de cuisson des aliments, mais on n'allait pas au-delà. Et ça se traduisait donc, si vous voulez, par un manque de chauffage dans les bâtiments. Parce que, tout simplement, la France, je vous le disais tout à l'heure, la France de l'époque, c'est 25 millions d'habitants, la Russie, c'est 15. Seulement, la Russie, c'est un territoire immense avec de grandes forêts. Donc 15 millions d'habitants en Russie peuvent mieux se chauffer avec un territoire immense couvert de forêts que 25 millions de Français avec un territoire qui est le 11e de la ou même le 20e de la Russie actuelle et qui avait à l'époque une couverture forestière déjà dégradée. Elle le sera encore plus pendant la Révolution. C'est le code forestier de Napoléon qui va reconstituer la forêt française qui fait que de nos jours, la France n'a jamais été aussi couverte de forêts qu'aujourd'hui. Alors on est donc dans une situation difficile au point de vue de l'approvisionnement en bois, d'autant que l'industrie consomme beaucoup de bois. À Cahors, à la fin du règne de Louis XVI, vous aviez une verrerie qui employait 800 personnes. Or, la fabrication de verre est dévoreuse de bois. Ces 800 personnes, du reste, vont jouer un rôle important lors des journées révolutionnaires à Cahors. C'est le journal d'un bourgeois de Cahors, Sélarié, la de Bégousse, qui nous le montre. À Montcuq, par contre, bizarrement, le bourg était très mal approvisionné en bois. D'abord parce que la campagne aux alentours était surexploitée pour ce qui est de la production de céréales. Il ne faut pas oublier que les cantons de Montcuq et de Castelnau, encore jusqu'aux années 1960, étaient les deux cantons surproducteurs de blé. Ils produisaient beaucoup plus de blé que ce dont ils avaient besoin, alors que le reste du Lot et même du Quercy était plutôt en déficit. C'est Arthur Young nous le dit de tout le Quercy, en les années 1780. Le Quercy est un jardin totalement cultivé depuis Cressensac jusqu'à Montauban. Et le Quercy blanc était un pays de très gros producteurs de céréales, mais au prix d'une déforestation complète du paysage. Dans les années 50 encore, des recueils de cartes postales nous le prouvent, le Quercy blanc était dépourvu d'arbres. L'arbre est revenu avec la déprise agraire et l'exode rural, l'abandon des élevages de troupeaux de moutons et de chèvres, la fameuse vignette des très riches heures du duc de Berry. En abandonnant l'élevage des moutons et des chèvres, on va favoriser le retour de l'arbre. La déprise agricole des années 60-65, l'abandon de certaines exploitations agricoles, va se traduire par, même s'il y a un agrandissement des exploitations subsistantes, on va réserver à la culture labourée les vallées, les plateaux d'Écosse, les versants seront abandonnés à l'arbre, à la forêt. Alors que, sous l'Ancien Régime, jusqu'aux années de l'entre-deux-guerres, le Quercy blanc était un pays sans arbres. Donc comment faire pour se chauffer s'il n'y a pas d'arbres ? Alors on a des solutions avec des broussailles, des épineux, la paille, mais ce sont de tout petits feux. Ce que l'on sait maintenant, c'est que nos ancêtres, jusqu'au XIXe siècle, se contentaient d'un très petit chauffage. On allumait la cheminée tout juste pour faire la cuisine, à la rigueur pour se chauffer le soir, et même quelquefois, on évitait de se chauffer. On économisait parce qu'il fallait gérer les ressources avec parcimonie. Il fallait gérer les ressources avec prévoir l'aléa, la catastrophe qui pouvait survenir. Un grand froid qui aurait survenu, il est arrivé parfois qu'il neige et qu'il fasse de grands froids jusqu'au mois de mars. Donc il fallait, comme on disait, mietzaï et mietzgranier. En février, moitié grenier, réserve de grains, moitié chais, réserve de vin. Et ça pose donc le problème de ce qu'il en était de l'hiver, dans nos régions, et particulièrement pour les sources d'informations que j'ai, en pays de Montcuq. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour une dernière pause musicale. Alors, les hivers de jadis en Pays d'Oc. Qu'est-ce que c'est que l'hiver ? C'est la saison que l'on passe autour de la cheminée, l'oukantou. L'oukantou, c'est le foyer, c'est le lieu du feu flambant. Mais en occitan, on dit tsamineio, et ça pose un problème. Parce que voilà, on a un problème d'étymologie. La forme occitane normale, ce serait caminado, qui vient de l'italien vénitien, du dialecte de Venise, caminata, emprunté au grec byzantin camnata. Et camnata vient du grec kamnos, qui est une déformation de kapnos, la fumée. Au fond, aux origines, la caminata, c'était le lieu où se trouvait un tuyau d'évacuation de la fumée. Pour d'autres, le terme grec kamnos aurait donné le latin caminus, chemin en français, cami en occitan, qui désignerait, certes, le tuyau d'évacuation de la fumée, le conduit, et par dérivation, le foyer, l'âtre, le lieu du feu. Or, le lieu du feu en occitan, c'est la fugagno, du terme foc qui veut dire feu. Inversement, l'occitan caminado, ça désigne, c'est pas n'importe quoi, ça désigne aux origines une salle chauffée, un logis chauffé. Et très exactement, ça se réduit à désigner le presbytère. Un presbytère en occitan classique, c'est une caminado. Si bien qu'à Montcuq, vous aviez une place, ça je tiens ça de feu Jean Courbès, notaire de Montcuq, qui avait fait comme son père des recherches sur les registres notariés. La place de la caminade, la place du presbytère, de la caminade à Montcuq, c'est la place qui se trouve en contrebas de la médiathèque actuelle, de l'ancienne Halle aux Grèmes. Une place qui était à l'époque plus vaste que maintenant, elle allait depuis l'ancienne maison Jean Combarieu jusqu'à ce qui est de nos jours la maison paroissiale. Et la caminade de l'époque, le presbytère, c'est une maison du XVe siècle en contrebas de la maison paroissiale. Le presbytère antérieur se trouvait entre la rue droite, la Carriero d'Reizzo, et la Carriero dell'Asto, la rue de l'Ast, qui peut vouloir dire la rue de la Broche ou la rue de la Lance, comme l'on voudra. Il y avait là, du reste, deux petites rues qu'on appelait des ruelles, des caminoros, qu'on appelait les Carrieros del Fournaut et del Fourbas, la rue du four haut et du four bas, parce que là se trouvaient les fours seigneuriaux de Montcuq, où on faisait cuire son pain. Alors, c'était toute une réglementation, ce serait trop long pour en parler, mais c'était là que se trouvaient les fours à pain de Montcuq. Il faut savoir qu'à Montcuq, encore au XIXe siècle, il n'y avait pas de boulanger. Chacun préparait son pain et, alors, les textes ne sont pas très précis, ou bien le faisait cuire dans ses fours anciennement seigneuriaux, devenus fours communaux, ou le cuisait chez soi. Donc, chacun avait chez soi un four suffisant pour cuire le pain. Ces fours à cuire le pain, vous en avez un très bel exemple à Montcuq, à Saint-Géniès plus exactement, au domaine du Cluzel, chez la Mourousse, une très belle vieille maison, 15e, 16e siècle. Et il y a à l'extérieur l'ensemble complet, four à pain et Bugadou, l'endroit où l'on faisait la lessive. Il y en a quelques vestiges à Taliopeno, en face de Montcuq, au bord de la route de Rouillac, au Mas de la Fargue, qui a appartenu à une fameuse hérétique cathare de Montcuq au Moyen-Âge, Peyrunello de la Fargo. Il en reste quelques vestiges. À travers cet élément, le rôle du feu dans le Montcuq ancien, aussi bien à travers le lieu chauffé qui est une caminado, dont le mot se réduit à désigner le presbytère, intervient donc, si vous voulez, la fugagno, n'est-ce pas, dont je vous parlais tout à l'heure, qui apparaît dans les actes, dans les registres de l'Inquisition du XIVe siècle, mais qui, semble-t-il, a été relevé ailleurs en Pays d'Oc. Se manifeste le problème des étymologies, des origines, parce que le cantu occitan, de quoi ça peut-il venir ? On pense au celtique cantos qui désigne un cercle. Mais un cercle de quoi ? Le cercle des gens rangés autour du feu. Alors que cantu, ça désigne quoi ? En occitan, c'est un lieu abrité, un coin où l'on est bien, un coin chauffé. Dans les actes des notaires de Montcuq d'Ancien Régime, chaque fois que je trouve le terme cantu de quelque chose, cantu des cantars, cantu des bilobourgoun, cantu de tout ce qu'on voudra, ça désigne un coin, un renfoncement entre plusieurs maisons, exposé plein sud et où les gens se tenaient l'hiver pour se chauffer au soleil. Ça me fait penser à un passage des Poemos Provençaus de Romanilio, où il disait que les vieux de des villages de Provence, l'hiver, se tenaient sur des petites placettes, protégées de tous les vents, en plein soleil, pour se chauffer. On retrouve ceci au Maghreb. Au Maghreb, l'hiver, on se tient dans les montagnes berbères, on passe les heures de soleil de la journée assis sur des bandes de pierre contre des murs, protégés du vent, pour se chauffer au soleil. On ne chauffe guère les intérieurs. Et ce qui me le fait dire, c'est ce que je tiens. Alors là, j'ai été témoin souvent, et ça m'est raconté par d'autres, de beaucoup de familles du vieux bourg de Montcuq, j'en connais notamment dont les ancêtres sont cités dans les registres de l'Inquisition au XIIIe siècle. Alors je ne vais pas toujours donner les noms, je ne veux pas avoir d'histoire, mais je connais une famille du vieux bourg de Montcuq qui habite une belle maison du XIIIe siècle, elle habitait, ils sont toujours propriétaires, et l'hiver, quand il faisait bien froid, on allumait un tout petit feu dans la cheminée et on préférait bien s'habiller plutôt que de dépenser beaucoup de bois. chez une personne que je connaissais bien, commerçante, le feu dans la cheminée se réduisait à quelques bûchettes. Chez une autre personne du vieux Bourdemoncu, qui était une personne fort riche, c'était la même chose. Elle était très riche, mais très avare. Ceux qui l'ont connue sauront de qui je veux parler. Elle habitait en haut de la carrière Audrey, sur la rue droite, à l'angle avec la place du Plat. Donc on était, si vous voulez, dans un pays, dans un village, où l'hiver se passait plutôt à économiser le chauffage qu'à bien chauffer la maison. Ça se retrouvait dans l'aménagement intérieur des maisons, où vous avez, dans le vieux Montcuq et ailleurs dans la campagne, de belles vieilles maisons avec de superbes cheminées. 15e, 16e siècle, vous en trouvez plusieurs dans le vieux Bourdemoncuq. Alors, l'ancienne maison Bonis, à l'enseigne Fourcatre d'un jour, la maison Mitragne, une belle maison 15e siècle, l'équivalent dans la salle principale de la mairie de Montcuq. Mairie qui a récupéré les vestiges de maisons antérieures rachetées par les consuls de Montcuq vers 1650 pour faire l'hôtel de ville. Et ils ont conservé quelques éléments des habitats anciens. On en retrouve évidemment dans la tour de Montcuq, mais là, ce sont des cheminées plus anciennes, de type Île-de-France, 13e siècle, ce qui pose le problème de la datation de la tour. Et vous trouvez dans la maison judaïque au bas de la rue du Plat, celle qui appartient à Nicolas Meynet, des restes d'une cheminée 12e, 13e, engagée dans un mur. J'ai connu des gariotes avec cheminée sur les côtes de Montcuq, des granges isolées en pleine campagne avec une petite cheminée d'angle. On retrouvait ça dans les petites maisons des champs où l'on allait passer les jours de fêtes religieuses du printemps, Pâques et Pentecôte. On avait donc, si vous voulez, un aménagement de l'intérieur par des cheminées, qui était le seul moyen de chauffage connu, et qui était quand même un moyen de chauffage à l'économie et non pas à la dépense. C'est-à-dire que ça révèle bien ce que fut la mentalité du Quercy ancien. Il s'agissait, plutôt que de bien vivre, il s'agissait d'économiser. Il s'agissait, au fond, de survivre aux aléas de l'existence par une gestion précautionneuse, parcimonieuse, attentive des ressources dont on disposait, de façon à ce que on ramenait les besoins au niveau des ressources. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Que la cheminée, c'est un des éléments du confort luxueux des maisons riches et dominantes avant le XVIIIe siècle. Elle est devenue commune au XIXe dans toutes les demeures. Son usage, qui a été longtemps d'abord limité à la cuisine et occasionnellement au chauffage, s'est étendu à toutes les pièces à vivre ou à dormir, mais elle a été toujours peu utilisée du fait de la cherté du combustible, sauf évidemment pour cuisiner, et ce qui fait de la cheminée un signe de civilisation et de culture, comme le montrent les différences de comportement entre descendants des anciens Celtes, français, britanniques, même hispaniques et italiens, qui ne sont pas descendants de Celtes, et germaniques et slaves. On a donc, si vous voulez, à travers le comportement de nos populations pendant l'hiver, un témoignage de ce qu'a été ce qu'on appelle la culture en sociologie, c'est-à-dire l'ensemble des comportements. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un mois de décembre aussi agréable que possible, en attendant de pouvoir parler des rites, traditions, mythes, légendes de Noël, si du moins l'inspiration m'y porte. Allez, à une autre fois, François Narnoux depuis le studio des Animaux. Au revoir.